Bonjour. Nous voici presque à la fin de notre voyage à travers les règles de discernement des esprits selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Nous en sommes à l'avant-dernier épisode de cette série de 16 épisodes qui est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais « Le discernement des esprits, libération des captifs » avec le père Timothy Gallagher. Vous pouvez retrouver ces entretiens en anglais sur la chaîne YouTube « Discerning Hearts ». 13e règle. Sa conduite est encore celle d'un séducteur. Il demande le secret et ne redoute rien tant que d'être découvert. Un séducteur qui sollicite la fille d'un père honnête ou la femme d'un homme d'honneur veut que ses discours et ses insinuations restent secrets. Il craint vivement, au contraire, que la fille découvre à son père ou la femme à son mari ses paroles trompeuses et son intention perverse. Il comprend facilement qu'il ne pourrait réussir dans ses coupables desseins. De même, quand l'ennemi de la nature humaine veut tromper une âme juste par ses ruses et ses artifices, il désire, il veut qu'elle l'écoute et qu'elle garde le secret. Mais si cette âme découvre tout à un confesseur éclairé ou à une autre personne spirituelle qui connaisse les tromperies et les ruses de l'ennemi, il en reçoit un grand déplaisir, car il sait que toute sa malice demeurera impuissante du moment où ses tentatives seront découvertes et mises au grand jour. Toutes les règles sont vraiment importantes, mais la règle numéro 5 et celle-ci sont à écrire à l'encre indélébile. Briser le silence spirituel. Pas facile du tout. Difficile aussi de savoir quand parler. Dans la règle précédente, Ignace voulait que nous comprenions que l'ennemi est essentiellement faible et que sa seule force est notre faiblesse, notre manque de résistance. Et il insistait sur l'importance de rester ferme dès le début. Dans cette formidable règle numéro 13, il veut que nous réalisions que l'ennemi va tout faire pour que nous ne parlions pas à un mentor spirituel compétent des soucis que nous rencontrons dans notre vie de foi. Les tentations, les pensées décourageantes, les mauvaises suggestions, toutes ces choses qui pèsent sur nous et nous enfoncent. Il veut que nous les gardions secrètes et que nous n'en parlions à personne. Dans cette règle, comme dans la précédente, Ignace commence par une métaphore, une sorte de parabole dont il tire une leçon. La parabole est assez évidente ici. Il s'agit d'un homme malhonnête qui essaye de séduire une femme respectable au lieu de l'aimer sincèrement. Il entre dans le jeu de la séduction et lui fait des avances indécentes et des suggestions déplacées. Il veut absolument qu'elle ne dise rien à son père si c'est une jeune fille ou à son mari si c'est une femme mariée, parce qu'il sait très bien que dès qu'elle en parlera à son père ou à son mari, la partie sera finie pour lui. Aussi longtemps qu'elle se tait, la partie peut continuer et il peut garder l'espoir d'atteindre son but malhonnête. C'est la métaphore. Quelle leçon Ignace en tire-t-il pour la vie spirituelle? De même, quand l'ennemi de la nature humaine veut tromper une âme juste par ses ruses et ses artifices, ses suggestions troublantes, ses tentations, les choses qui nous pèsent, ce qui nous empêche de vivre librement notre relation à Dieu, de profiter de son amour, de l'aimer, quand il veut tromper une âme juste par ses ruses et ses artifices, il désire, il veut qu'elle l'écoute et qu'elle garde le secret. C'est le cœur de sa tactique. Et voici la réponse appropriée à la tactique. Mais si cette âme découvre tout à un confesseur éclairé ou à une autre personne spirituelle qui connaisse les tromperies et les ruses de l'ennemi, il en reçoit un grand déplaisir, car il sait que toute sa malice demeurera impuissante du moment où ses tentatives seront découvertes et mises au grand jour. Cette règle peut toucher en fait à des aspects très sensibles, très délicats de la vie intime, parce que presque chacun d'entre nous porte en lui un ou plusieurs secrets, plus ou moins lourds, du passé ou même du présent, que personne, absolument personne, ne connaît. Pensons à quelqu'un qui pourrait se sentir tellement libre d'aimer Dieu, de se laisser aimer par lui, si seulement il n'y avait pas eu un événement particulier dans sa vie, il y a peut-être des années, des dizaines d'années, dont il ou elle n'a jamais parlé à personne. ou si ce n'était pour cet aspect récurrent, une habitude dangereuse de sa vie que personne ne connaît, qu'il ou elle n'a jamais partagée avec personne, mais qui lui est impossible d'ignorer et qui lui revient toujours à l'esprit, à la conscience, à la lecture des passages de la Bible qui parlent de l'amour de Dieu pour nous, ou à l'écoute d'une homélie qui parle du désir de Dieu de se faire proche de nous. Ce poids sur sa conscience ne cesse de faire obstacle. Il y a des années, le père Gallagher faisait des missions dans les paroisses avant de prendre en charge son ministère actuel d'enseignement des règles du discernement. Il arrivait dans une paroisse pour quelques jours seulement. Il était inconnu mais rassurant. Les gens l'écoutaient parler, se sentaient en confiance et souvent il se présentait une occasion où les gens, finalement, pour la première fois, étaient en mesure de trouver des mots pour parler de fardeaux spirituels qu'ils portaient parfois depuis des dizaines d'années. C'était très émouvant, très beau de voir la libération que cela apportait. Libérer les captifs, c'est l'objectif des règles. Les moments les plus heureux de son ministère de prêtre, de directeur spirituel, de conférencier, sont ces moments où il a pu être cet espace protégé, sécuritaire, où les gens ont été capables de mettre des mots sur ce qui leur pesait et entravait leur relation avec Dieu. Ces moments où il a vu le miracle de la libération se produire. Briser le silence spirituel n'est donc vraiment pas toujours évident, mais si libérateur. On l'a répété de nombreuses fois maintenant, et Dieu le dit dès le début, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ce n'est pas bon non plus de vivre sa vie spirituelle seule. Mais à qui parler de ces choses parfois très lourdes? Pensons encore à cette personne qui traîne un poids sur la conscience. Elle le sent ce poids, ce souci, ce doute douloureux, cet aspect de sa vie ou cet événement du passé qui lui fait douter que Dieu puisse vraiment l'aimer. Vers qui peut-elle se tourner pour en parler? Ignace décrit succinctement, mais très clairement, deux profils possibles de personnes à qui parler. Relisons. Mais si cette âme découvre tout à un confesseur éclairé ou à une autre personne spirituelle qui connaisse les tromperies et les ruses de l'ennemi, il en reçoit un grand déplaisir. Le premier profil est celui du confesseur, un confesseur éclairé, dit-il, c'est-à-dire qui connaît les tromperies et les ruses de l'ennemi, qui est familier avec les tactiques qu'il emploie, avec tout ce qu'Ignace décrit dans les règles. Quand je parle à un confesseur avisé, il est capable de décrypter les ruses de l'ennemi, de m'aider à les repérer et à les comprendre pour que je puisse m'en libérer. Un confesseur avisé, donc. Et encore mieux, un confesseur avisé que je connais. Un prêtre que je sais être ce genre de confesseur parce que je me suis déjà tournée vers lui assez souvent. Pas nécessairement très souvent, mais assez souvent pour avoir un rapport personnel avec lui. Pour savoir qu'il est bon. Le deuxième profil que suggère Saint Ignace est plus large et peut être incarné par n'importe qui, pas nécessairement un prêtre. Il dit simplement une autre personne spirituelle et il précise qui connaît les tromperies et les ruses de l'ennemi. Ça peut être un laïc, un moine, une moniale. Pourvu que cette personne soit bien informée des stratégies et des pièges de l'ennemi, c'est-à-dire formée par un enseignement du genre de celui des règles de discernement. Pour que, quand je parle à une telle personne compétente, informée, elle soit capable de m'aider avec le vécu que je partage. Regardons ensemble un moment dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous verrons quelques-unes de ses tactiques et la réponse d'une sainte à ses attaques. L'épisode se déroule le soir qui précède la journée de ses vœux de moniale carmélite. C'est évidemment un moment clé dans sa vie. En fait, dans l'histoire de l'Église, il y a peu d'exemples de vocation aussi claire et aussi prématurée que celle de Thérèse. Elle savait depuis un très jeune âge qu'elle était appelée par Dieu à devenir carmélite. Quand elle atteint l'âge de 15 ans, elle demande à son père la permission de suivre sa vocation et il lui donne. Elle est trop jeune selon les statuts du Carmel, donc elle va voir l'évêque pour demander une dérogation. Et l'évêque, faisant preuve de beaucoup de sagesse, la réfère au prêtre du diocèse responsable du monastère du Carmel, qui exprime des doutes à cause de son âge et parce que plusieurs de ses sœurs y sont déjà. il n'est pas convaincu qu'il soit opportun pour elle d'entrer à un si jeune âge. Alors Thérèse part en pèlerinage à Rome pour l'année du jubilé. En rompant avec le protocole devant tout le monde, elle tombe à genoux devant le pape Pie XIII et lui demande sa permission d'entrer au Carmel. Il la renvoie bien sûr à son évêque, mais c'est un moment décisif pour elle, parce qu'un autre prêtre, qui faisait également le pèlerinage, assistant à la scène de cette jeune fille plaidant si sincèrement sa cause devant le Saint-Père, veut en savoir plus sur elle. Il parle au père de Thérèse, qui faisait lui aussi le pèlerinage, apprend sa situation, et quand il rentre, met les choses en place pour qu'elle puisse rentrer au Carmel. Thérèse est donc au Carmel depuis plusieurs années, d'abord comme postulante, puis comme novice. À aucun moment elle n'a douté de sa vocation. Et c'est la veille de la cérémonie des vœux. Thérèse est en retraite, elle est en silence, un silence qui ne sera rompu que par la cérémonie du lendemain. Les autres sœurs sont dans le chœur pour prier l'office divin et réciter des psaumes. Elles viennent de finir. Elles restent ensemble une dizaine de minutes de plus en prière silencieuse, avant de se séparer et de retourner chacune dans sa cellule pour la nuit, et jusqu'au lendemain matin quand elles se retrouveront de nouveau pour prier ensemble. Thérèse médite le chemin de croix. Et soudain, un doute se glisse dans son esprit. Est-elle vraiment appelée à entrer au Carmel? Lisons ce qu'elle écrit. Enfin, le beau jour de mes noces arriva. Elle parle de ses épousailles avec le Seigneur Jésus, le jour de ses vœux perpétuels. Il fut sans nuage, mais la veille, il s'éleva dans mon âme une tempête comme jamais je n'en avais vu. Pas un seul doute sur ma vocation ne m'était encore venu à la pensée. Il fallait que je connaisse cette épreuve. Ça nous ramène à la neuvième règle où Ignace explique pourquoi ce Dieu qui nous aime tant permet que nous traversions la noirceur de la désolation spirituelle. Est-ce que Dieu aurait pu épargner à Thérèse cette tempête dans son âme la veille de ses vœux? Elle reconnaît que c'était indispensable. Et Ignace nous explique pourquoi dans la règle 9. Quelquefois, ce n'est pas parce que nous avons fait une faute ou que nous avons été négligents, mais parce qu'il y a une leçon pour nous à la clé. Dans ce cas, Dieu permet la désolation spirituelle comme une épreuve, parce que nous en sortirons grandis, plus avisés. Et Thérèse, instinctivement, avec l'intuition pointue des saints, le reconnaît. Il fallait que je connaisse cette épreuve. Le soir, en faisant mon chemin de la croix, après matine, c'est la dernière partie de la prière des psaumes que les sœurs chantent ensemble, ma vocation m'a paru comme un rêve, une chimère. Je trouvais la vie du Carmel bien belle, mais le démon m'inspirait l'assurance. Elle nomme clairement la cause de son tourment et elle utilise une expression très forte, m'inspira l'assurance. L'assurance, c'est fort. Mais le démon m'inspirait l'assurance qu'elle n'était pas faite pour moi, que je tromperais mes supérieurs en avançant dans une voie où je n'étais pas appelée. Mes ténèbres étaient si grandes que je ne voyais ni ne comprenais qu'une chose. Je n'avais pas la vocation. Ah, comment dépeindre l'angoisse de mon âme? On peut avoir une petite idée de cette angoisse. C'est une jeune femme qui, pendant des années, a orienté tout dans sa vie, avec beaucoup de courage et d'énergie, vers un seul but, sa vocation de carmélite, qui n'a jamais eu aucun doute et qui est maintenant sur le point de prononcer ses vœux et soudain, elle pense qu'elle s'est trompée depuis le début, qu'elle était dans l'erreur et qu'elle a entraîné ses supérieurs dans l'erreur. La cérémonie est prête, tout le monde vient, et maintenant elle est convaincue, dans le silence du chemin de croix, qu'elle fait fausse route depuis le début. « Comment dépeindre l'angoisse de mon âme ?» dit-elle. « Il me semblait, chose absurde qui montre que cette tentation était du démon, encore une fois elle nomme les choses très clairement, il me semblait que si je disais mes craintes, c'est la règle numéro 13. Si je disais mes craintes à ma maîtresse, la personne responsable de sa préparation à la profession des vœux et qui était une directrice spirituelle avisée et compétente, si je disais mes craintes à ma maîtresse, elle allait m'empêcher de prononcer mes saints vœux. Cependant, je voulais faire la volonté du bon Dieu et retourner dans le monde plutôt que de rester au Carmel en faisant la mienne. La situation est renversée maintenant, elle voit tout à l'envers. Son esprit et son cœur sont envahis par un scénario imaginaire dans lequel elle se voit entrer dans le cœur, demander à la maîtresse des novices de sortir pour parler avec elle, ce que celle-ci fait très gentiment, lui raconter qu'elle vient de comprendre qu'elle s'est complètement trompée sur sa vocation et que Dieu ne l'appelle pas à une vie au Carmel. Elle voit sa maîtresse accepter sa décision et s'engager à s'occuper d'annuler la cérémonie et de préparer le retour de Thérèse à la maison. Ce scénario imaginaire de la conversation avec la maîtresse des novices se résume ainsi. Si tu parles, ce sera la fin de tout ce que tu voulais pour ta vocation. Ce sera extrêmement pénible. Tous tes rêves seront anéantis. Mais voyons ce que cette grande mystique fait. Je fis donc sortir ma maîtresse. Ça a dû lui demander un courage incroyable. La petite novice, visiblement très troublée, qui interrompt les matines devant toute la communauté pour demander à la maîtresse de sortir pour lui parler. Et elles savent toutes que ses vœux perpétuels auront lieu le lendemain. Ça n'est pas difficile pour les autres sœurs de deviner la nature de ce qui la met dans cet état. Thérèse est de ce genre de personne d'une force et d'une détermination rares. Elle montre un courage d'acier qui est exemplaire. Je fis donc sortir ma maîtresse et, remplie de confusion, je lui dis l'état de mon âme. Heureusement, elle vit plus clair que moi et me rassura complètement. D'ailleurs, l'acte d'humilité que j'avais fait venait de mettre en fuite le démon qui pensait peut-être que je n'allais pas oser avouer ma tentation. C'est le cœur de l'enseignement de la règle numéro 13. Le démon pensait peut-être que je n'allais pas oser avouer ma tentation. Aussitôt que j'eus fini de parler, mes doutes s'en allèrent. C'est exactement ce que saint Ignace veut nous amener à comprendre dans la 13e règle. Comparons les deux scénarios. Le scénario imaginaire, je demande à parler à la maîtresse des novices, je lui raconte ce que je viens de réaliser de ma vocation, elle est d'accord que je me suis trompée, et c'est la fin de tout ce que j'ai ardemment souhaité. La douleur est immense, et derrière ce scénario imaginaire, il y a ce message implicite. Tu ne peux pas parler, ne dis rien. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement. Thérèse demande à parler à la maîtresse des novices, elle s'asseye, Thérèse partage ce qu'elle croit avoir découvert sur sa vocation, ses doutes, son combat. La maîtresse, qui est une personne spirituelle avisée et compétente, et qui a probablement vu le même tourment chez d'autres novices dans les mêmes circonstances, elle connaît aussi intimement Thérèse, qu'elle accompagne depuis longtemps, et elle peut donc facilement la rassurer complètement. Non, Thérèse, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Aussitôt que j'eus fini de parler, mes doutes s'en allèrent. Mais Thérèse ne s'arrête pas là dans sa détermination à faire exactement le contraire de ce que l'ennemi voulait qu'elle fasse, se taire. Elle écrit : Cependant, pour rendre plus complet mon acte d'humilité, je voulus encore confier mon étrange tentation à notre mère. Elle parle de la supérieure, la sœur responsable du monastère, qui se contenta de rire de moi. Ce qui est parfait. Thérèse, nous te connaissons, nous connaissons ta vocation, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et Thérèse écrit ensuite : Le matin du 8 septembre, je me sentis inondée d'un fleuve de paix. La consolation spirituelle. Et ce fut dans cette paix surpassant tout sentiment que je prononçai mes saints vœux. Que se serait-il passé si Thérèse n'avait pas parlé ce soir-là à la maîtresse des novices? Aurait-elle prononcé ses vœux avec ce sentiment de paix indescriptible dont elle parle? Quel doute aurait-elle peut-être porté pendant des années? Nous savons tous que toute vocation authentique est testée avec force à plusieurs occasions dans la vie, que ce soit le mariage, la prêtrise, la vie religieuse. Et dans ces moments-là, la voix se fera entendre, la voix de l'ennemi. Tu savais bien que tu n'étais pas appelée à vivre cette vie et tu n'as rien dit. Et la porte sur tant de souffrances, de luttes et de doutes est fermée parce que Thérèse reconnaît rapidement les pensées accablantes soufflées par l'ennemi et elle va directement trouver une personne compétente pour en parler ouvertement. Et tout est fini. Que se serait-il passé si Thérèse ce soir-là avait parlé, mais pas à la maîtresse des novices, peut-être à une autre novice ? Aurait-elle professé ses vœux dans un fleuve de paix ? Thérèse intuitivement à appliquer à la lettre l'enseignement de la règle numéro 13. Ma vie spirituelle est troublée, j'ai un poids sur le cœur. Je trouve une personne compétente et avisée spirituellement. Je lui parle ouvertement et le poids disparaît et je reprends ma vie dans la paix parce que j'ai brisé le silence spirituel qui me retenait. Essayons d'énumérer les différentes manières de subir cette tactique de l'ennemi quand il essaye de nous convaincre de ne pas parler de ce qui nous inquiète. Supposons que je connais un prêtre qui, je le sais, est compétent, avisé et avec qui je pourrais parler de ce qui me tracasse et qui me comprendrait et pourrait vraiment m'aider. Mais il me vient immédiatement cette pensée. Il est bien trop occupé. Ou alors, je suis très occupé en ce moment, je n'ai pas le temps. Si une pensée de cette nature me retient pendant une semaine, un mois, c'est peut-être vrai. Mais si un mois, 6 mois, 1 an après, je n'ai toujours fait aucune démarche auprès de cette personne compétente, il faut que je commence à penser à la tactique de l'ennemi de la règle numéro 13. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que je parle pour que ce poids sur ma vie spirituelle perdure. Autre cas de figure. Il y a bien une personne spirituelle compétente à qui je pourrais parler, mais si je le fais, elle va se moquer de moi. Elle ne me comprendra pas. Elle va être très gentille avec moi, mais au fond d'elle-même, j'en suis sûre, elle va perdre son respect pour moi et ne me verra plus jamais de la même manière. Ou encore, cette personne va m'écouter avec bienveillance et puis, d'une certaine manière, va me faire comprendre que si c'est vrai ce que je dis, si ce que je raconte fait vraiment partie de ma vie, nous ne pouvons plus continuer à parler et il ne peut plus continuer à m'aider dans ma vie spirituelle. Ou encore, pourquoi est-ce que je devrais même prendre la peine de parler à quelqu'un de ça? Personne ne peut rien y faire, personne ne peut m'aider. Il n'y a rien que personne ne puisse faire pour y changer quelque chose. Quand ce genre de pensée apparaît, il y a certainement une grande désolation spirituelle en plus de la tentation, parce qu'on sent l'accablement. Dans tous ces exemples, on entend la voix qui murmure à l'oreille. Garde ça pour toi. N'en parle à personne. C'est un secret que tu ne veux pas révéler. Et pourtant, comme Thérèse, on peut se libérer. Aussitôt que j'eus fini de parler, mes doutes s'en allèrent. C'est ce que l'ennemi veut t'empêcher d'arriver, mais c'est ce que le Seigneur veut pour nous. En 2009, le pape Benoît XVI a consacré une de ses catéchèses du mercredi au moine Siméon, le nouveau théologien. Dans sa jeunesse, le futur théologien trouva un directeur spirituel qui l'aida grandement et pour qui il garda toute son estime. Ce type de lien est toujours valable pour les prêtres, les consacrés ou les laïcs, les jeunes notamment, invités à recourir au conseil d'un père spirituel capable d'accompagner chacun dans une meilleure connaissance de soi-même, de conduire chacun vers l'union personnelle avec le Seigneur, de manière à ce que toute vie soit mieux conforme à l'Évangile. Et le pape conclut, « Pour avancer vers Dieu, je suis sûr que c'est ce que nous voulons tous et toutes, pour avancer vers Dieu, pour grandir, pour progresser spirituellement vers lui, on a toujours besoin d'un guide, d'une forme de dialogue. » Et il ajoute, « Ce n'est pas possible avec la seule aide de nos raisonnements. » Et Benoît XVI conclut, « Là se trouve également le sens de l'ecclésialité de notre foi, la rencontre d'un guide. La nature de notre foi nous rapproche pour faire église. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. » À ce point-ci, plusieurs d'entre vous doivent se poser la question, mais comment fait-on pour trouver une personne spirituelle avisée et compétente? La première source évidente est l'Église elle-même, qui a une longue tradition d'accompagnement spirituel et auprès de laquelle il est possible de trouver une personne que nous pourrons rencontrer régulièrement et avec qui nous pourrons cheminer pendant un temps plus ou moins long. Quand c'est possible, c'est une très bonne option. Cependant, cette solution n'est pas toujours disponible pour différentes raisons. Il faut continuer à chercher sans perdre espoir, mais en attendant, beaucoup d'autres options sont disponibles. La confession est une option très précieuse. Pour plusieurs, aller se confesser auprès d'un prêtre et s'ouvrir à lui avec confiance peut faire une très grande différence. Les remarques et les conseils spirituels, même très brefs, du prêtre peuvent souvent servir de ligne directrice. Vous pourriez essayer ceci, avez-vous considéré cela? Faites cette première étape et voyez. Cela peut faire une énorme différence. Le sacrement de la confession peut offrir cet espace, même brièvement, de conseils spirituels qui peut tout changer. Celui ou celle qui veut vivre une vie de discernement doit réaliser l'importance de la contribution du sacrement du pardon, qui peut devenir une source essentielle de conseils spirituels. Les retraites offrent aussi un espace pour trouver des conseils spirituels. Par exemple, en allant tous les ans faire une retraite de 2 ou 3 jours, ou 1 ou 2 fois par an pour 1 jour, pour 1 week-end. Et pendant la retraite, il est toujours possible de demander à parler au directeur de la retraite ou au conférencier. Il y a une très grande différence entre une vie spirituelle menée en solitaire, sans parler à personne, et une vie spirituelle où, 1 ou 2 fois par an, on s'ouvre à quelqu'un capable de nous orienter. Les retraites sont ainsi aussi très utiles pour vivre selon la règle numéro 13, c'est-à-dire en brisant le silence spirituel. À un autre niveau, on ne parle plus ici d'une personne formée à l'accompagnement spirituel. Il y a aussi des amis spirituels ou un groupe à la paroisse qui se consacre à la prière et à l'orientation spirituelle, auquel je peux me joindre. Les époux peuvent aussi se tourner l'un vers l'autre. C'est ce que l'Église appelle la spiritualité conjugale, une aide unique que les époux peuvent être l'un pour l'autre, un accompagnement très beau dans le sacrement du mariage. Ce n'est pas toujours possible, bien sûr, mais quand ça l'est, c'est très précieux. Les familles peuvent s'entraider aussi et prier l'un pour l'autre. La solution peut être une combinaison de plusieurs de ces options. Les moyens de communication disponibles aujourd'hui offrent aussi toutes sortes de nouvelles possibilités à distance. Il est impossible de ne pas trouver une façon d'être accompagné sur son chemin de vie spirituelle, et les bienfaits qui rejaillissent de cet accompagnement sont considérables. Réellement, la seule et unique chose qui puisse nous empêcher de trouver quelqu'un pour nous accompagner, c'est d'écouter cette voix de l'ennemi qui ne veut surtout pas que nous parlions et qui nous susurre « Tu ne trouveras personne, il n'y a personne ». Il faut alors se rappeler l'expérience de Sainte Thérèse. Aussitôt que j'eus fini de parler, mes doutes s'en allèrent. C'est accessible à tous.